What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine pour cet épisode 6, Charlotte Blum d'OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Léo Soessanto de Soap. Hello Léo.
Bonjour Pierre.
Et Éric Bouge de Téléstar. Bonjour Éric.
Salut Pierre.
Et nous ne sommes pas seuls puisque ce podcast est enregistré en public et que le public prendra lui aussi la parole s'il le veut en fin d'émission. Au menu, un homme, une machine, une plume capable de vendre des millions de livres. Mais jusqu'ici, bien emmerdé quand il voyait les séries adaptées de ses romans. Stephen King et Canal+ vient de lancer la diffusion de 22-11-63, histoire de voyage dans le temps, de meurtre de JFK et de James Franco. Et ce n'est que mon avis, rare cas d'adaptation réussie de King en série.
I'm gonna tell you something. It's gonna seem crazy.
Okay.
But, before I do, I need you to go in this closet. Just go in there and take a look around. Stay as long as you need. And then come back. Then I'll tell you everything.
You want me to go in the closet, look around, spend as much time as I need?
I know I sound bad shit, okay?
Yeah.
But I thought about this, and it'll just be simpler. If you go in like I'm asking.
Go in the closet.
Can you do me a goddamn favor and just walk into the fucking closet?
Fine. I'm going. Okay, relax.
Avant d'élargir le débat, intéressons-nous, chers amis, si vous le voulez bien, à l'actualité, la diffusion avec un poil de retard, hein, à peine moins d'un an, de 22-11-63 sous nos latitudes sur Canal+, depuis le jeudi 19 janvier. Notre première mission, pour ceux qui penseraient qu'il s'agit d'une série sur les numéros gagnants du loto ou du quarté quinté plus, c'est d'expliquer ce que signifient ces chiffres et de quoi parle la série 22-11-63. Qui s'y colle? Comme d'habitude, c'est le silence de début d'émission, Éric.
J'y vais. C'est une date, le 22-11-63. C'est la date de l'assassinat de Kennedy. Alors, en anglais, c'est l'inverse. C'est 11-22-63.
11-22-63.
Voilà, exactement. Donc voilà, c'est une date.
Et
l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un professeur de littérature qui découvre une faille spatio-temporelle dans un placard. C'est un peu ça, un closet, qui permet de revenir en 1960. Donc il va revenir dans le temps et il va essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy avec cette question, en fait, qui se pose, est-ce que Lee Harvey Oswald est le seul responsable de cet assassinat ou est-ce qu'il y a une conspiration derrière?
Et j'ai dit que c'était plutôt réussi et c'est là que chacun son tour va pouvoir dire, Charlotte, qu'en penses-tu? Est-ce plutôt réussi? Est-ce que ce geste que les gens ne verront pas puisque c'est de la radio, ce visage genre légèrement consterné, ça veut dire que tu es moins convaincue que moi?
Écoute, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec Stephen King ou si je suis objective, mais pour moi c'est une adaptation sur 20% du livre et c'est les 20% les moins beaux du livre. Cette série, elle s'est complètement axée, concentrée sur la mission dont tu viens de parler, qui est empêcher l'assassinat de Kennedy. Or, c'est un bouquin qui fait 1000 pages, et sur ces 1000 pages, il y en a 800 qui racontent juste le quotidien de l'Amérique dans les années 60, et des êtres humains, et des amitiés, et des relations, et le racisme, et machin. Et tout ça, ça a disparu littéralement de la série. Or, moi, c'est pour ça que j'aime Stephen King, donc pour moi, c'est un gros foirage.
Léo.
C'est une adaptation fonctionnelle, donc comme disait Charlotte et Eric, elle se concentre sur cette sur la façon dont James Franco ou pas va déjouer l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 63. Moi, j'ai plutôt aimé, mais bizarrement, ça m'a ramené genre 20 ans en arrière. J'avais l'impression d'être devant M6, vendredi soir, devant toutes ces mini-séries, ces téléfilms de Stephen King qu'on a vus en chaîne à cette période-là. C'était bien parce que ça nous évitait de lire les bouquins en question. En 3 épisodes, c'était bouclé. On avait vu ça, Atomic Knockers, Gangoliers.
Toutes ces choses dont on va parler un peu plus tard dans l'émission.
Donc voilà, donc... cette même impression, donc je sais pas pourquoi pourquoi Stephen King devient synonyme un petit peu de comfort food, enfin de voilà de séries un peu confortables, un peu pantouflardes, mais sinon dans le genre c'est assez réussi, c'est bien joué, James Franco est un peu plus supportable que d'habitude et la constitution des années 60 est quand même bien foutue.
Eric,
ouais moi je vous trouve un peu sévère, je trouve que c'est franchement pas mal, surtout avec ce qu'on a été habitué parce que les Atomic Knockers etc c'est catastrophique quand même. Hein. Là, c'est quand même au niveau de la production, ça tient la route. Et moi, j'ai bien aimé au contraire.
C'est un monsieur D.J. Abrams voilà, qui est à la production. Je crois qu'il marche pas mal en ce moment. C'est quelqu'un qui a un peu de travail. On le voit un peu au cinéma aussi.
On le voit aussi à la télé. Hein. Au niveau de la production, c'est 2 crans au-dessus des précédentes adaptations de King à la télé. Et moi, ce qui m'a plu justement, c'est le côté l'intrigue autour de l'assassinat que je trouvais qui était pour le coup balayé dans le bouquin, alors que c'est ce qui m'attirait au départ. Et là, pour le coup, il va quand même un peu dedans.
On signale que Eric et Charlotte sont à deux bouts de la table, donc il n'y a pas de violence qui vont se passer pendant cette émission. Mais justement, j'allais demander... Donc visiblement, vous êtes au moins 2. Vous avez tous lu le livre ?
Oui.
Tous les 3. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Donc moi, j'ai eu un avis frais, si j'ose dire. Et j'ai plutôt aimé le résultat. J'ai eu un peu de mal à accrocher au début. Et puis après, j'étais un peu paumé. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite, hein, avant d'en revenir au livre. Moi, j'étais un peu perdu parce que j'ai trouvé que c'était un peu bâtard dans le genre. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, ah, dis donc, il y a ce... Pour expliquer ceux qui n'ont pas vu la série, le temps est presque une entité... palpable qui va s'opposer au travail de James Franco, du personnage de James Franco, et donc on se dit au début qu'il va y avoir tout un côté fantastique où il va être en permanence devoir lutter contre les mouvements du temps, si j'ose dire, qui vont littéralement essayer de lui faire voir des accidents, etc. Et ça commence à disparaître assez rapidement. Et puis ensuite, on a l'impression que c'est un thriller, mais en fait, c'est plutôt une histoire d'amour. Et finalement, tout ça est un peu bancal. Et pour aller avec tout ça, ça fait 8 épisodes, qui est un format assez peu commun pour les Américains. Et donc, j'étais un peu déstabilisé. Ça, est-ce que c'est finalement fidèle au travail de King, ce côté un petit peu déséquilibré entre les genres ?
Moi, je dirais pas déséquilibré. C'est quelqu'un qui a toujours mélangé les genres d'un bouquin à l'autre et au sein d'un bouquin, mais évidemment quand tu dépouilles un livre, que tu essayes de faire un effet entonnoir et de voir ce qui reste au fond du seau, bah il reste un espèce de mélange de trucs qui sont tous plus ou moins mal digérés. Je pense que le problème c'est que pourtant on n'arrête pas de dire c'est une série, on a le temps, prenons le temps. La nana qui a écrit la série arrêtait pas de dire je voulais faire 2 épisodes, finalement 4, on m'a dit ok, finalement 6, on m'a dit ok, finalement mais fais-en 15, raconte l'histoire correctement, voilà.
Mais c'est peut-être le but aussi d'une série de couper. Enfin, le but, c'est pas de faire page par page.
Oui, mais coupe proprement. Choisis ton camp. Elle a choisi quelle histoire dans l'histoire l'intéressait, qu'elle choisisse aussi son genre, à la limite.
Elle a choisi son camp, justement. Elle a choisi de s'intéresser plus à l'intrigue politique et thriller plutôt qu'à l'histoire d'amour. Moi, oui. Je trouvais que c'était la faiblesse du bouquin, l'histoire d'amour. Je trouve que King a jamais été très bon pour raconter des histoires.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, elle a choisi son camp en privilégiant l'histoire du complot à l'histoire des humains. Là, Pierre nous parle du fait qu'on a une espèce de mélange des genres qui est un peu troublant.
Puis c'est un peu l'un après l'autre, hein. C'est ça qui
oui,
m'a
c'est
un
ça.
Peu
c'est chaque
gêné.
Épisode a son style mais et sa
pareil,
thématique et égrène partout. Non.
Alors, si, Léo, toi, tu as lu le roman aussi.
Je disais que l'adaptation était fonctionnelle parce que pour 8 épisodes, effectivement, c'est ce qu'on peut attendre. Ça aurait été 24 épisodes ou même 6 saisons, le bouquin est suffisamment gros pour pouvoir tenir sur 3 ou 4 saisons de série, puisque mine de rien, dans le bouquin, il remonte en 1958, quoi. Donc 2 ans par rapport à la série. Et quand tu attends 5 ans pour l'assassinat de Kennedy, et ben en 5 ans, et ben tu fais des choses comme avoir un job. Et justement, la meilleure partie du bouquin, donc dont parlait Charlotte, les 80% du reste qui ont été coupés, c'est toute la partie où il est prof dans les années 60, et c'est super bien.
Et on le voit quand même dans la série, mais ceci étant dit, c'est vrai qu'on aperçoit que très brièvement, il y a une scène dans une station essence, on la balancera pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, où il est question de racisme très frontalement, mais Charlotte, tu sous-entendais que le roman s'arrête très longuement sur la société américaine, la série le fait très peu. Est-ce que ça, c'est pas pour moi, je pose même pas la question, j'affirme, pour moi, c'est la première faiblesse de la série, c'est de ne pas, de très vite envie de se recentrer sur ces personnages et de ne pas avoir assez le temps de nous parler de la société américaine de l'époque, qui pourtant, Dieu sait, a des reflets dans la société américaine actuelle et aurait pu peut-être de manière plus maligne être réutilisée, discutée dans le propos de la série.
Ce que j'aime bien, c'est que ça n'utilise pas cet écueil de prendre des éléments historiques comme prisme de lecture de histoire contemporaine.
Certes.
Voilà, donc c'est pas, je pense que ça ne va pas choquer le fait que ce n'est pas tant traité que ça le racisme et la société américaine, puisque ça n'avait que 8 épisodes. Donc c'est fonctionnel, ça adapte ce qu'ils doivent adapter, donc ce qui intéresse, c'est ça. Mais il y a, je pense que ça a été enlevé, mais il y a quand même une histoire d'amour qui reste, qui résonne plutôt bien, même si ça aurait mérité un peu plus d'ampleur. Mais ça, c'est déjà pas mal.
Moi, pour moi, elle a bien marché, l'histoire d'amour. Au final, c'est ce que j'ai retenu de cette série. C'est une histoire d'amour.
Elle marche mieux dans la série que dans le bouquin. Ou dans le bouquin, c'est vraiment les gros clichés. Hein.
Charlotte, tu as le droit de réagir. Sans violence.
Non, honnêtement, moi, je pense que dans la série, elle fonctionne parce qu'ils sont jolis à regarder. Mais t'as quand même l'impression qu'ils se sont rencontrés il y a une demi-heure à une fête, qu'ils sont tombés fous amoureux, qu'ils se racontent toute leur vie en 10 minutes dans une chambre d'hôtel et que c'est fini.
C'est tragique, tu viens de résumer la limite des séries par rapport au roman, là. Donc,
non, mais c'est...
Enfin, sauf s'ils avaient fait plusieurs saisons.
Non, mais là où c'est dramatique, c'est que on est tous très bien placés pour le savoir. Cette limite-là n'existe pas dans les séries. Et moi, je trouve ça catastrophique que le jour... Effectivement, c'est la énième adaptation de Stephen King, mais putain, arrêtez d'utiliser des choses bien écrites et bien travaillées pour faire un machin un peu pourri, un peu vite fait. La nana qui scénarisait disait, pour moi, tout ce qui me fait... Oui, quand j'aime, je suis sévère, je suis une vraie fan. Tout ce qui ne faisait pas avancer l'intrigue a jarté. Mais elle est où l'émotion, elle est où l'humanité? Enfin, ça marche pas comme ça, une série.
Oh, I get it. But changing the past to make it how you think it should be, it just seems...
You think Vietnam unfolded exactly as it should have? That recent American history was just hunky-dory.
That saving JFK is just a theory. You don't know what it's going to change.
You know what I know? You save Kennedy's life. You make the world a better place. God damn it.
Al.
Don't you want to do any fucking thing that matters?
I'm just saying you don't have any proof. You don't know that what you do in the past is going to change anything here.
Si j'ai bien compté, 22-11-63 est la 26e mini-série ou téléfilm ou série basée sur un texte de Stephen King, adaptation ou création originale. Attention, hein, donc pas que des adaptations, mais aussi des séries qu'il a écrites ou des épisodes qu'il a écrits. Alors, est-ce que quelqu'un autour de la table les a toutes vues?
Bon, presque.
Oh, oui, prends un risque. Presque. Ouais. Oh, est-ce qu'il y en a, ça remonte à la fin des années 70, les premières, si je ne dis pas de bêtises.
Il y a très longtemps. Oui. Golden Years.
Ah, donc il y a des bons. Ok, donc on est pointure autour de cette table. Je vous fais le tour rapido des adaptations les plus connues. Shining y a été, Les Langoliers y ont été, Dead Zone, Carrie, Sac d'Os, Bag of Bones dans le texte, Le Dôme, on a dit ça tout à l'heure, et j'en passe. J'ai pris les plus connus évidemment, mais c'est plus souvent des nouvelles qu'on adapte, comme Heaven, qui était une déclinaison de The Colorado Kid. En gros, est-ce que les romans de Stephen King, c'est trop des gros pavés et on peut pas faire une série avec, et c'est plus facile de prendre une nouvelle? C'est contre-exemple avec 22-11-63. Mais quand on prend sur la liste, c'est souvent des textes courts qui ont été adaptés.
Oui, parce qu'en fait, le cinéma se réserve à la base les romans. Et d'ailleurs,
on va parler évidemment de cinéma brièvement tout à l'heure.
Mais là, au départ, ça devait être un film, un cinéma. Jonathan Demme voulait l'adapter,
Qui a fait Le Silence des Agneaux.
Le Silence des Agneaux, exactement. Mais il s'est pas entendu avec King sur le scénar.
Oui, parce que King y a participé à ce genre de comme souvent d'ailleurs.
Mais
souvent,
en fait, si les adaptations séries et téléfilms sont assez mauvaises, c'est principalement la faute de King, hein, parce que c'est lui qui n'a pas aimé au départ, faut revenir un peu en arrière, il avait détesté Shining de Kubrick, parce qu'il avait pris trop de liberté avec son roman, et depuis, d'ailleurs il a fait un espèce de remake pour la télé, qui est du coup assez plat, mais beaucoup plus proche du roman.
Charlotte est en train de scier la table avec ses dents, on va lui donner la parole.
Oui, il y a le choix entre Kubrick et l'autre, mais bon... Moi, je préfère le Kubrick, mais il est pas fan, en effet, des adaptations cinéma. Il a pris un réalisateur qui s'appelle Mick Garris, qui adapte fidèlement ses romans depuis des années. Il en a fait une dizaine d'adaptations et c'est à chaque fois catastrophique. C'est Les Langoliers, etc., les Tommy Knockers. Mais King, ça lui plaît. C'est ça qu'il aime.
Donc tu sous-entends que King a des goûts de merde en télévision.
Oui.
Ça s'est posé.
Exactement.
Charlotte.
En fait, je pense que les gens comme moi, qui n'ont pas aimé 11 novembre 63, pas seulement parce que on m'a sucré la moitié de mon bouquin, mais parce que je n'ai pas retrouvé, 22 novembre 63, parce que je n'ai pas retrouvé ce dont tu t'imagines, ce dont tu parles, qui est la pâte de Mick Garris. Et je pense que si tu as vu effectivement Les Langoliers sur M6 le dimanche soir, effectivement Le Fléau, tous ces trucs-là, si t'as été nourri de ça, moi, curieusement, c'est ça que j'attends encore aujourd'hui. C'est cette patte, c'est ce grain, c'est cette lenteur, c'est quelques clichés, c'est des acteurs qui reviennent tout le temps. J'attends pas un petit Easter eggs. Hein, on a mis Annette O'Toole dans 22 novembre 63, les fans vont être contents. Mais
faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les Langoliers, une suite
Ouais. Oui, parce que Stephen King, c'est quelqu'un qui est, qui a quelque chose d'universel, quelque chose d'immortel chez lui, et il n'y a pas quelque chose de moderne. C'est pas un écrivain moderne. Et j'attends pas de lui de faire une série moderne, produite par J.J. Abrams, qui produit tout et n'importe quoi pourvu que ça nous rende nostalgique.
Tu préfères un truc un peu old school?
Ouais, bien sûr.
Donc, potentiellement moins bien, quoi. Mais juste
non,
de la confort food, comme tu le disais.
Non, là, je suis pas du tout d'accord. C'est pas potentiel. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que l'année 2016, il y a eu une adaptation de Stephen King qui est foirée, et il y a eu Stranger Things qui est pas du Stephen King, mais qui est du très bon Stephen King. Donc, il y a un moment, il y a quelque chose de particulier dans le choix de la musique, dans le rythme, dans les expressions des personnages. C'est un écrivain qui a des tics de langage. Si je retrouve pas ça, pour moi, c'est pas une adaptation de Stephen King. Donc, effectivement, ma vision de la série adaptée de lui est old school.
Léo, aussi, j'ai pris les plus connus des non-spécialistes de King comme moi. C'est Dead Zone, c'est Heaven, c'est Under the Dome, c'est celles qui ont duré plusieurs saisons, pour dire les choses simplement. C'est quand même pas les plus réussis, parce que il y en a quand même des réussis. Tout le monde peut se mettre d'accord autour de cette table qu'il y a bien une ou deux mini-séries qui ont été pas trop mal réussies.
La meilleure adaptation de Stephen King et une avancée masquée, c'est Ghost. Qui a tout pompé sur Stephen King.
Oui, non, mais alors, non, tu ne réponds pas à ma question.
Je suis désolé, ça a tout pompé sur Stephen King. Donc, mais on l'a vu, donc c'est gosse. Et ça marche à la télévision. Ça prouve bien que Stephen King, donc tous ces trucs, genre l'avion qui remonte le temps, The Hatch qui est tiré de, qui est pompé sur Talking Knockers, L'homme en noir qui est pompé sur Randall Flagg dans le Fléau. Voilà, tout ça, ça a été passé à les moulinettes de Abrams, donc de Cues et Lindelof, et ça a passé très bien sur plein de saisons.
Oui,
c'était génial.
C'est parce que ça a été, c'est l'influence de King. Mais alors là, du coup, on fait un podcast d'une heure, on n'y arrivera jamais, mais du coup, je recentre. Est-ce que l'écriture de Steve, cette question pointue pour ceux qui connaissent ces romans, est-ce que l'écriture de Stephen King se prête à l'adaptation télévisuelle ou pas? Est-ce que c'est une écriture qui est peut-être, comme le dit Charlotte, qui peut être super émouvante, super touchante par écrit, mais qui une fois passe à l'écran?
Ce qu'on y voit à la télévision, en fait, c'est le gras. On reproche souvent au
c'est le bouquin, chocolat blanc de Stephen King.
On reproche souvent au bouquin de Stephen King d'être beaucoup trop long, et c'est vrai, ils sont tous trop gros. Mais effectivement, sur 800 pages, il y a 200 pages, 300 pages consacrées au horror stricto sensu, ben, tout le reste qui est 100 fois mieux, quoi. Dans ça, ce qui est plus intéressant, c'est toute la description de la vie de Derry, la description de l'enfance, de l'adolescence, qui est vachement bien pour ça. Ça pourrait faire de super séries.
Et la mini-série est super bien faite.
Voilà. Les meilleurs, si on passe au cinéma, les meilleures adaptations donc de Stephen King.
Et il y en a plus, en tout cas dans l'histoire du cinéma, il y a plus de films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre ou presque, qui sont des adaptations de King. J'allais dire justement Shining, Carrie, Stand by Me, Les Évadés. Il y a plein de films qui ont été très réussis.
Réussis sont les trahisons, genre Shining de Kubrick et Brian De Palma. Il peut filmer n'importe quoi dans Carrie, il peut filmer une porte qui s'ouvre, ce serait génial. Après, ce qui marche aussi dans les autres films qui ont marché adaptés de Stephen King sont des trucs non fantastiques, justement comme Stand by Me. Ou Les Évadés, qui sont des trucs un peu plus quotidiens. Voilà, donc ça prouve qu'il peut y avoir...
Ce qui est le cas de 22-11-63, quand on y pense. Elle est moins fantastique, cette histoire-là.
Il y a un élément
déclencheur fantastique, mais après, on est dans le quotidien.
Il y a des trivialités, mais après, il y a toute une partie fantastique, effectivement, qui, avec le temps, donc, qui se rebelle et qui fait à peu près les mêmes trucs que dans Gollier à la fin. Mais Stephen King à la télévision, pourquoi pas, quoi. Sauf qu'il y a eu Ghost. Dommage.
Non, mais il y a, au niveau des réalisateurs, surtout, il y a une vraie patte des réalisateurs. Quand on prend De Palma, Kubrick, ils donnent une vraie personnalité à leur œuvre. Alors que, à la télé, King ne choisit que des faiseurs qui rendent des choses très plates.
Je vous sais gré de ne pas avoir massacré Under the Dome depuis tout à l'heure. Je vous ai tendu des bâtons d'autres fois.
On essaye de faire comme si elle n'existait pas.
D'accord.
On a remonté le temps qu'elle n'a pas existé. Ça n'existe pas. Hein.
D'accord. Moi, j'ai bien aimé le lavage coupé en deux. Je trouvais ça assez cool. Mais mis à part ça, ça ne m'a pas du tout intéressé. Stephen King a aussi écrit des scénarios, j'en ai noté quelques-uns. Un pour un épisode de Tales from the Dark Side, Histoire de l'autre monde, une anthologie des années 1980. Un pour les X-Files, un pour Under the Dome, justement, parce qu'il y met la main à la patte. C'est un romancier qui aime flirter avec la fiction télé globalement, quand même, donc qui aime la télévision.
Il vient faire des apparitions dans ses séries.
Et ouais. Il a joué aussi dans une série que Charlotte déteste. Sons of Anarchy.
Oh, que j'adore, jusqu'à saison 5.
Donc, a priori, c'est un mariage qui devrait fonctionner mieux que ça.
Mais c'est un grand enfant, Stephen King. Il aime, tu vois, il a remaké Lars von Trier, L'Hôpital et ses fantômes. Il aime, c'est quelqu'un qui a plus rien à prouver, qui a écrit je ne sais combien de bouquins, qui en a vendu 350 millions. On lui donne n'importe quel joujou. Il joue avec, il s'amuse, ça marche, c'est cool, ça marche pas, il s'en fout. Il essaye tout. Il s'amuse, en fait. C'est un mec qui s'amuse. C'est pas est-ce qu'il aime la télé, est-ce qu'il aime le cinéma, est-ce qu'il aime les romans, est-ce qu'il aime les comics. Il aime tout. Il aime l'art, il aime créer, il aime raconter ses histoires, il aime revenir sur les démons de l'Amérique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, c'est trop long, il répète souvent la même chose, ses personnages se ressemblent, etc., etc. Mais c'est un mec pluriel.
C'est vrai que c'est assez paradoxal. Enfin, Stephen King, c'est un peu comme Tom Sawyer, c'est Amérique, hein, donc c'est... Toute la pop culture depuis les années 50-60 qui incarne. Et pourquoi la télévision n'arrive pas à lui rendre justice? Pourquoi la série n'arrive pas à lui rendre justice? Bon, il y a apparemment lui-même est un problème, mais c'est un grand mystère.
Oui, alors et puis en effet, le fait que ce soit toujours des nouvelles qui soient adaptées, c'est, des fois il y a des séries qui sont adaptées d'une nouvelle qui fait 10 pages.
Oui, et qui ensuite Heaven par exemple, ça voilà. Prend l'idée de départ et après ça développe tout autre chose.
Exactement. Donc on peut pas reprocher non plus à King pour Heaven que ce soit raté parce que c'est vraiment plus le bouquin.
Quoique Heaven c'était un peu chiant, mais c'était pas si nul. Enfin, non, pardon, non. Si je puis me permettre, moi je trouvais ça pas si nul. Enfin, c'était mignon et plutôt photogénique. Voilà. En tout cas, j'ai regardé quelques épisodes sans déplaisir du tout. C'est pas foutu pour Stephen King parce que j'ai encore appris à compter et j'ai compté 23 projets en cours basés. Vous savez, sur la fiche IMDb de King, c'est à mourir de rire. Ça, il y a une page de filming en projet. Enfin, c'est incroyable. Dont une pelletée de séries, Mr. Mercedes. Vous m'arrêtez si je dis mal ces titres puisque je ne connais pas assez l'œuvre de King et The Dark Tower, qui est un petit peu le truc hein, dont on parle depuis 253 ans et qui n'existe toujours pas. Est-ce que finalement Stephen King ne serait pas le nouveau, on dit toujours, voilà, le maître de Hollywood, c'est, en gros ils sont deux, hein, c'est J.J. Abrams, c'est William Shakespeare. Est-ce que c'est pas aussi Stephen King qu'on voit la pelletée de projets en cours et Léo, tu disais l'influence qu'il peut avoir sur la production actuelle et peut-être que finalement l'homme de l'ombre le plus puissant d'Hollywood, ça serait lui aujourd'hui.
En tout cas, Hollywood cherche des histoires, et aujourd'hui, des mecs ont des histoires à raconter dans un ou deux bouquins par an, il n'y en a pas 50, il y en a un, et c'est lui. Mais je pense que si tu avais regardé sa fiche IMDb il y a 10 ans, il y avait déjà 25 projets en cours. C'est quelqu'un qui fournit des histoires, en fait, et Hollywood, sans histoire, elle n'existe pas.
Et puis, il recycle aussi, hein, parce que Myst, ça a déjà été fait en film. Ouais. Il réutilise des anciens romans, parce que c'est quand même les meilleurs. Hein. Faut voir que depuis 20 ans,
mais non, regarde 22 novembre 63, c'est ouais, son meilleur.
Non, c'est pas son meilleur.
Allez, son deuxième meilleur.
Mais en dehors de, bon, admettons celui-là, mais depuis 20 ans, par exemple, il n'y a pas eu un film potable tiré de King, parce qu'il n'a pas fait quasiment un roman potable depuis 20 ans. Depuis qu'il a eu son accident de camion, là, qui s'est fait écraser par un camion, il a quasiment plus rien écrit de potable. Et c'est pour ça qu'il réutilise, en fait, toujours ses anciens romans, qu'il réadapte, même The Dark Tower, etc. C'est des choses qu'il a fait toujours avant son accident. Donc depuis, à un moment il voulait arrêter d'ailleurs hein, d'écrire en disant il avait dit j'ai plus d'idées, j'y arrive plus. Il a finalement changé d'avis, mais pour faire des romans d'ailleurs il a fait par exemple une suite à Shining qui est catastrophique.
Charlotte n'est pas d'accord. Je propose qu'on lance un podcast littéraire. C'est parti. Vous écoutez le podcast de l'Association française des critiques littéraires. Non, plus sérieusement, vous n'êtes pas d'accord en tout cas sur les bouquins non plus. Hein. Charlotte, je te voyais bouger la tête.
Non, si, on là, est d'accord. Non, mais c'est bon. Vrai que des trucs comme Mr. Mercedes où il nous commence à essayer de nous faire du polar pur. Là, je pense qu'il s'est perdu en conjoncture. C'est une catastrophe. Mais non, Joyland, il y a eu des super bons romans, je suis désolée.
Une dernière question. Globalement, on peut dire que tous les trois, vous aimez bien Stephen King, en tout cas, je l'espère. Est-ce que c'est pas un peu déprimant de voir qu'il y a une espèce de récupération permanente? Alors, tu disais, Charlotte, que c'est aussi son plaisir à lui. Hein. Mais moi, si, enfin, quand chaque fois que mes auteurs préférés sont adaptés, je tremble parce que je me dis, ils vont encore me bousiller mon bouquin et ça me déprime, quoi.
Non, enfin, moi, non, ça dépend. Si c'est bien fait. Si moi, The Dark Tower, je l'attends vraiment. J'espère que ça va être une très bonne adaptation et je suis impatient de voir ça.
C'est en cours, hein, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est en cours. Il va y avoir un film d'abord.
C'est Idriss Elba que j'ai vu.
Exactement.
Matthew McConaughey. D'abord.
Exactement. Ça, ça, je l'attends vraiment. Maintenant, Monsieur Mercedes, en effet, je l'attendrai pas des masses, quoi. Mais
il vient pas. Je crois qu'il est annulé.
Whatever it is, it cut off all our roads.
Not just the roads, the whole town.
Our best guess puts the dome at 20,000 feet, sir.
Did he just call it a dome?
You think we might be stuck in here a while?
I think that even if what's wrong suddenly becomes right, the army's just gonna quarantine this place.
Duke, what the hell is going on?
I promise as soon as I have answers, so will all of you.
Should we tell him the truth?
This together.
Assez causé les amis, on s'est mis un petit son du dôme, hein, voilà pour se souvenir les bons souvenirs d'Under the Dome. Assez causé, chers amis, c'est l'heure de laisser la parole au public de un épisode des Jarrettes. Vous avez des questions, vous êtes furieux de ce que vous venez d'entendre, vous cherchez le 06 de Steven, je crois que tu l'as Charlotte, hein, pour lui demander un remboursement de votre intégrale d'Under the Dome, voilà justement. C'est à vous de jouer, bonjour mademoiselle.
Bonjour, je suis Luby. Moi, à chaque fois que je vois une série de Stephen King, et alors j'ai pas lu les livres, désolée Charlotte, mais j'ai l'impression de voir la même chose en fait, de tout le temps, mais surtout Under the Dome
exemple.
Et 22-11-63, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose, il y a toujours un mystère et puis c'est un peu fumeux et puis en fait il me perd à ce moment-là. Et
J.J. Abrams.
Non, moins là, c'est, je sais pas, j'ai l'impression de tout le temps voir la même chose. Récemment. Hein.
Charlotte, tu sous-entendais après quand même que ça faisait partie du plaisir d'avoir une espèce de répétition dans le.
Ah
la
oui,
façon
mais alors
les
certainement
choses.
Pas dans le fait que on a l'impression de voir 10 fois la même chose. Non, ce côté un peu effectivement comfort reading ou ce que tu veux, c'est que il a un style, il a un rythme, il a un chapitrage qui est particulier, il a une façon de faire parler ses personnages et il a des prétextes. Et je pense que c'est ça, c'est les prétextes qui te mettent peut-être un peu mal à l'aise parce que bah c'est quelqu'un qui a toujours eu des histoires empreintes de mystère, t'enlèves le mystère, bah tu fais un drame familial et voilà. Donc c'est ça touche. Et c'est exactement ce dont je parle au début, c'est que dès lors que tous ces gens qui adaptent ce qu'ils font enlèvent ce qui est Stephen King, ce qui est les gens, le vélo, tout ce que tu veux, et qui garde que ce putain de mystère, on nous a dépouillé un truc pour garder un bouton de chemise, et toi tu fais, bah ouais, mais le bouton de chemise, j'ai déjà vu la semaine dernière. Oui, mais c'est pas ça qu'il y avait à l'origine, c'est une chemise complète.
Ah donc c'est la faute des séries, c'était ça l'idée, c'est que c'est pas la faute de Stephen King.
Bah, il suffit de lire les livres pour s'en rendre compte, excusez-moi.
Non, mais c'est fatigant de lire. Non, je déconne. Hein. Il faut lire aussi, c'est important la littérature, il faut beaucoup lire.
Non, mais du coup, Luby justifie exactement ce qu'on vient de dire. C'est que ce qu'on nous montre à la télé, c'est un espèce de Nestlé concentré d'un truc merveilleux où il reste 3 gouttes.
Et on termine là-dessus cette 6e émission de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Merci Charlotte Blum d'OCS, Léo Soesanto de Soap et Eric Bouche de Téléstar. Merci aussi à Jules Croc qui était à la technique et au public de l'antenne qui nous a accompagnés pendant cette demi-heure. Merci beaucoup à vous. L'Association française des critiques de séries ACS est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on revient en France et on vous parle de Guyane, la nouvelle série de Canal+, une série d'aventure, un genre rare chez nous. A-t-on peur de l'action? Manque-t-on de moyens? Ne sait-on pas faire ça comme il faut? On en parle dimanche prochain. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.